Cheval, pow, blanc, whiz.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre Énervé qui fait coup double, vous le savez, chaque soir, ça commence dès 18h, en avant-première, en podcast, avant le passage antenne, 22h minuit, comme tout le monde. Ce soir, suite de notre programmation semaine de vacances, et en ce lendemain de Noël, on ouvre nos cadeaux. Et qu'est-ce qu'on a reçu avec Benoît Lagane ? Deux bandes dessinées, le nouvel Astérix et le dernier Blake et Mortimer. C'est Benoît qui est content, d'autant plus qu'on en avait parlé cette année, des BD avec des héros qui ne sont plus tout jeunes, 60 ans pour Astérix cette année et plus de 70 ans pour le duo qui passe à la retraite dans leur dernier album, le dernier Pharaon. En live, retour sur le meilleur des sessions du Énervé et ça c'est la nouvelle génération, Batlick, la programmation est signée Marion Guilbeault. Et puis dans le Énervé la suite, autre temps, autre parole, ce sera France Inter Plus bien sûr. Allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on ouvre avec une des grandes gagnantes de cette année 2019, Clara Luciani, une victoire de la musique, un disque de platine et la réédition de son premier album avec des inédits dont ce « Ma sœur ».
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois.
J'y crois, personne, personne, je
Énervé ce soir fête Noël avec les cadeaux reçus par Benoît Lagan. Deux bandes dessinées pour les héros les plus bankable de la BD franco-belge. On ouvre avec le duo Black et Mortimer. On parlera d'Astérix tout à l'heure. Depuis la mort d'Edgar P. Jacobs en 1987, l'œuvre a été scénarisée et dessinée par d'autres. Il y a eu Jean Van Damme, il y a eu Ted Benoît. Cette fois, ils se sont mis à quatre pour imaginer Black et Mortimer à la retraite et ils l'ont dessiné dans une ligne beaucoup moins claire. L'album Le Dernier Pharaon est paru en juin dernier. Avant de laisser la parole à Benoît Lagan qui va nous caser son édito, je vous rappelle nos invités, les quatre auteurs. François Skuyten qui est dessinateur scénographe, bien connu entre autres pour Les Cités Obscures. Jaco van der Mel qui est cinéaste, scénariste, on lui doit Toto le héros, Le Huitième Jour et Le Tout Nouveau Testament. À leur côté, il y avait aussi Thomas Gunzig, romancier, chroniqueur, scénariste et Laurent Durieux, affichiste, illustrateur et graphiste.
Alors Blake et Mortimer sont de retour dans Le Dernier Pharaon. Et dans cette histoire, on retrouve donc le professeur Philip Mortimer, spécialiste en physique nucléaire, et le capitaine Francis Blake, ex-pilote britannique et patron du contre-espionnage. On retrouve les héros donc de la marque jaune, le titre phare de la série, mais ils ont pris de l'âge. Bruxelles est un no man's land. Il faut dire qu'un champ électromagnétique surpuissant venu des sous-sols du palais de justice a obligé les autorités à enfermer Bruxelles. Le temps a donc passé, les deux compagnons de route se sont perdu de vue. Nous sommes dans les années 80 et leur mission est d'essayer de comprendre pour quelles raisons les rayonnements électromagnétiques ont repris depuis Bruxelles. Ce rayon menace désormais la planète entière, mais ce rayon est-il réellement une menace ? François Skuyten, pour imaginer ce one-shot, en bon bruxellois, je ne sais pas comment on le dit, vous y avez mis beaucoup de vous-même, vous vous êtes d'abord plongé dans votre propre enfance et votre propre rapport à cette œuvre, et puis comme Jacobs, vous avez fait des croquis de repérage, passionné d'architecture, notamment du palais de justice de Bruxelles que vous avez arpenté, vous vous êtes rendu jusqu'en Égypte pour découvrir les secrets de la Grande Pyramide sur le plateau de Gizeh. Bref, 4 ans de travail, un sacré investissement qui pour le lecteur en vaut la peine, on va en parler en détail dans un instant. Mais avant toute chose, François Skuyten, vous avez dit que la BD s'était terminée. Et vous avez dit notamment que c'était en lien avec toute la problématique de la précarité des auteurs. Donc, quand on s'appelle François Skuyten et qu'on se lance dans un Blake et Mortimer, c'est encore compliqué ?
Alors, pour le Blake et Mortimer, certainement pas. Parce que là, on est protégé, on a un éditeur qui voulait ce projet, on est avec des amis, on est très au chaud. Mais par contre, quand on se retrouve dans les 5300 nouveautés qui sortent chaque année, quand on se retrouve à travailler comme je continue à le faire, c'est-à-dire presque 3-4 ans sur un album, vous vous sentez un peu en décalage. Un décalage qui, pour l'instant, peut être très difficile et une équation difficilement résolvable parce qu'il faut du temps et que ce temps est de moins en moins pris en compte. On est dans un système qui nous pousse à devoir aller un peu plus vite. Parce que les droits d'auteur ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient, parce que le réassort aussi disparaît, parce qu'on est dans un tuyau qui est un peu boursouflé. Et dès lors, le temps de la création, le temps de recherche, le temps où on hésite, le temps des doutes, s'atrophie pour produire, et produire un peu trop vite parfois. Et surtout quand on est un dessinateur réaliste, il y a un temps qui est incompressible. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire souffrir. Et moi, je pense surtout à beaucoup de jeunes auteurs, à qui peut-être, pour certains, il faudrait dire non. Et à d'autres, il faudrait dire, on va t'aider vraiment.
On va rentrer dans la BD tout de suite maintenant.
Oui, François Skuyten, le point de départ donc de cet album, c'est la découverte en février 2012 de quelques lignes d'un projet de scénario imaginé par Edgar P. Jacobs. C'est un journaliste du soir, le quotidien belge, Daniel Couvreur, qui vous fait découvrir cette bribe de scénario. Ce scénario est situé dans le palais de justice de Bruxelles. C'est quoi cette idée ?
C'est pas grand-chose. Ce qui était surprenant, c'était de voir qu'il était prêt à mettre au cœur d'un de ses récits le bâtiment qui domine la ville de Bruxelles, alors que tout le monde le sait, Bruxelles n'était pas normalement acceptable comme sujet parce que les auteurs belges concentrent leur regard vers la France, qui est leur grand public. Dès lors, on nettoie un petit peu tout élément bruxellois ou belge. Et c'était très étonné qu'il s'autorise ça. Et donc, à partir du moment où il avait cette intention, c'était comme s'il y a eu un moment comme ça où je me suis dit, ah bon, il peut oser ça, il peut faire ça. S'il avait eu envie de ça, tout était possible pour moi. Ça a libéré plein d'idées. Et je me suis dit, il nous tend la main.
C'est pour ça que vous êtes allé chercher des Belges pour vous accompagner ?
Mais c'était Thomas pas Gunzig. Des Belges, c'était des amis.
Ouais. Parce que des Belges aussi, on peut avoir des Belges amis. Hein.
Oui, entre autres choses.
Entre autres choses, oui. Ouais. Mais vous êtes allé chercher donc un auteur, Thomas Gunzig, un illustrateur et puis un cinéaste.
Oui, d'abord Jaco, parce que...
Jaco van der Mel, cinéaste, oui.
On se connaît depuis 35 ans, plus de 35 ans, et puis lui, il a amené Thomas, et puis très vite, moi, j'ai voulu travailler, me bousculer un peu, essayer de sortir d'un certain nombre de réflexes, puisque ce livre, il fallait l'inventer. C'est-à-dire qu'on était tous un peu... on savait pas comment on allait aborder ça, c'était d'ailleurs très jubilatoire de faire en sorte que la page était vraiment blanche, et qu'il fallait trouver une écriture pour oser... se mettre dans les pas de Jacobs.
Mais justement, Jacob van Drommel, il n'y avait aucune réticence, vous, à vous lancer dans une telle aventure ?
Au départ, je l'ai fait par intérêt, par amitié, et pas par intérêt pour une autre façon de raconter des histoires, parce que c'est super de faire un truc pour la première fois à 60 ans. Et dans la BD, ben, effectivement, on peut sans problème dire les Indiens attaquent le fort et mettent le feu à la ville, c'est pas plus cher qu'il est plus quatre pommes de terre.
Non. Pourquoi ça, s'en priver?
Voilà, ça, alors
c'est un peu plus
voilà,
fun.
C'est ça. Alors que dans, au cinéma, on, tout de suite, on doit penser un Indien attaque une petite fermette, et puis, donc, c'est un autre type d'exercice, et aussi de travailler directement, c'est-à-dire la manière dont on a écrit tous les trois, c'est qu'on n'est pas passé par un texte écrit. On s'est vu une fois par semaine pendant un an et demi et on écrivait en dessinant, c'est-à-dire on regardait la main de François. Quand la main de François bougeait, dessinait, on se disait ça c'est une bonne idée. Et puis petit à petit, en dessinant, en faisant un crayonné du début vers la fin, et puis après en se rendant compte que ça marche pas, on recommence, on redécoupe, on refait des nouvelles pages, on refait des nouvelles scènes, on inverse, etc. Donc ça a été écrit directement pour exister sur une planche.
Quelle connaissance vous aviez de cette bande dessinée, culte, Blake et Mortimer, Thomas Gunzing?
Une connaissance qui s'arrêtait, je pense, à mes 12 ans. J'étais... très amateur de la série, j'avais lu la Grande Pyramide et surtout Le Piège Diabolique qui était ma BD préférée de mon enfance, que j'avais lu plusieurs fois et qui rassemblait un peu tout ce que j'aimais dans les histoires. Et puis, je sais pas pourquoi, j'avais un peu lâché l'affaire, mais il restait des souvenirs super forts, en fait, d'émotions que j'avais ressenties, de mystères, d'inquiétudes, d'atmosphères, des images... Donc voilà, donc forcément, quand François a proposé que je me mette à jouer avec ces jouets-là, ben j'étais évidemment ravi et excité.
Et de votre côté, Laurent Durieux, quelle connaissance vous aviez de Blake et Mortimer ?
C'est un peu ennuyeux, parce que c'est exactement la même que Thomas. J'ai découvert Blake et Mortimer avec Le Piège Diabolique chez ma grand-mère quand j'étais tout petit. Et il n'y avait qu'une seule BD, donc je l'ai lu plusieurs fois.
Et après, vous avez abandonné Blake et Mortimer, comme lui ?
Ah oui, après mais je suis resté dans la BD réaliste par contre. Jusqu'à très tard, je pensais que la BD n'était que réaliste. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai toujours pas lu Gaston Lagaffe par exemple. Je sais que c'est un génie, je sais que je les ai, mais j'ai pas encore pris le temps de les lire parce que j'ai grandi avec Métal Hurlant.
Ça veut dire quoi donc d'abandonner Blake et Mortimer quand on est jeune adolescent qu'on poursuit pas? Pense à ce que tu as une.
Alors je ne sais pas parce que moi j'y suis toujours revenu parce que c'est une œuvre très troublante en fait. Elle est constituée de peu de livres. Mais curieusement, ces livres ont une capacité à s'incruster en vous. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi ces images perdurent? Pourquoi elles vous hantent? Bon, je vois la qualité, mais je ne comprends pas comment Jacobs a réussi, par le dessin, à faire une synthèse entre des idées et des signes.
C'était qui? Il a été l'assistant d'Hergé, il a été publicitaire, c'était qui?
Alors, au départ, c'est vraiment un chanteur d'opéra, et il aimait énormément. Il était un peu déçu, sans doute, de ne pas avoir eu tout à fait la carrière qu'il espérait, tout en étant d'ailleurs quelqu'un qui faisait ses costumes, ou qui dessinait les costumes de certains opéras et les décors. Donc, il s'est beaucoup investi dans ce domaine. Et puis, à 40 ans, ça ne marchait plus comme avant, et il a toujours dessiné parallèlement, il a fait beaucoup de travail de publicité, de mode. Un très grand dessinateur de costumes. À chaque fois que je vois comment il dessinait un tombé de pantalon, j'avais pas mal de complexes. Et donc, il se met à la bande dessinée assez tard. Et c'est vrai que c'est par Hergé, puisqu'il va commencer par aider Hergé dans la mise en couleur. Et vous allez voir, d'ailleurs, il y a un changement de qualitatif dès que Jacobs arrive. Les mises en couleur qu'il fait changent complètement la qualité des Tintins. Hein, je crois que tu peux confirmer, Laurent, qu'il y a un avant et un après.
Oui, carrément.
Laurent Durieux.
Oui, sur les 7 boules de cristal.
Ouais,
déjà, c'est
lui.
Ouais, c'est lui. Il arrive à ce moment-là, je pense.
Et au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'il fait alors?
Bah, il transcende tout le bazar, quoi. C'est-à-dire qu'il explique un peu à tout le monde comment ça marche la couleur, quoi. Et c'est pour moi, c'est le maître absolu. Donc, oui, avant Hergé, il chipote, quoi. Enfin, les studios chipotent. C'est pas au point. Et Jacobs arrive et dit non, je vais vous montrer, venez par ici.
Alors moi c'est la dimension qui m'intéresse chez Jacobs, c'est sa dimension politique, parce que vous quand on lit votre album on voit bien que c'est forcément en écho à ce qui se passe aujourd'hui, les questions de décroissance, la dimension écologique est présente, il y a la critique du monde néolibéral, mais lui, Edgar P. Jacobs dans ses BD, quelle vision du monde il portait? Il se situait où politiquement?
Ouais, il était profondément influencé par tous les événements qui étaient arrivés au moment où qu'il vivait. D'ailleurs, donc la guerre 40 est très inscrite dans l'imaginaire de Jacob. C'est peur du nucléaire aussi. Voilà, il y a tout ça. Mais c'est aussi pour moi quelqu'un qui est capable de voir les rêves de son temps, avec l'Atlantide, et puis les rêves technologiques, maîtriser la météorologie. C'est ça qui est beau chez cet artiste, c'est qu'il a quand même une capacité à capter les mythes de son temps.
Vous, qu'est-ce que vous vouliez apporter dans cette aventure de Black et Mortimer, vous qui êtes cinéaste, qui êtes scénariste, un homme d'image, un homme de scène aussi, Jacob van der Mal?
On avait tous les trois envie de... Enfin, la fidélité était quelque part impossible. On ne sait pas ce que lui aurait fait maintenant.
Mais non, mais trahir, c'est pas grave.
Voilà, c'est ça. Mais on travaillait avec les Mortimer qu'on gardait en nous de notre enfance, et c'est un plaisir incroyable.
D'ailleurs, on vous a pas posé la question, vous, c'était lequel, votre album préféré?
Moi, c'était Le Mystère de la Grande Pyramide.
Ah oui, d'accord.
Qui était
ça tombe bien, voilà, avec le dernier Pharaon, c'est
mon livre de chevet. Donc c'est assez formidable de pouvoir refaire vivre un héros de l'enfance quand on est adulte. Mais on avait envie évidemment de le rendre de mes préoccupations de maintenant. Donc du coup c'est beaucoup plus contemporain. Ils ont vieilli, ils sont plus vraiment dans la société. Ils sont un peu has-been. Et technologiquement ici le danger c'est ce qui existe dans notre société contemporaine. C'est-à-dire que s'il y avait une éruption solaire très violente, tous les disques durs s'effaceraient. Nos souvenirs sont sur des disques durs, les possessions sont sur la différence entre les riches et les pauvres, c'est ce qu'il y a sur le disque dur des banques, la dette du tiers monde, c'est sur les disques durs. Et donc cette espèce d'explosion qui pourrait y avoir pourrait effacer ou pas et réinitialiser ou pas l'ordre du monde, quoi. Donc il y a ceux qui veulent que ça se passe et ceux qui veulent pas que ça se passe.
Moi, ce qui m'a véritablement intéressé, c'est que vous les avez vieillis. Ils sont à la retraite. Et ça, c'est très intéressant, parce que généralement, quand on reprend des héros, c'est pour ça que c'est un hors-série, hein, ce nouvel album. Quand on reprend des héros, ils sont toujours pareils. En fait, Astérix, il vieillit pas. Lucky Luke, il a toujours la même tronche. Et là, vous les avez vieillis. Laurent Durieux, c'était intéressant, ce pari, justement, de travailler sur le visage et sur la silhouette.
Oui, bah c'était juste un petit peu plus de boulot, parce que une barbe rousse, quand on vieillit, c'est plus une barbe rousse, c'est une barbe poivre et sel.
Ça, c'est
donc
on doit
s'amuser avec plusieurs couleurs là-dedans. Ouais. Non, mais je trouve que c'était une bonne idée, parce que ça tranchait vraiment. Ouais. Ça a le mérite de trancher, de dire on est ailleurs.
Et sur le plan de la position psychologique, Thomas Gunzig, forcément, quand on vieillit, on devient encore plus con, ou peut-être ou moins. Est-ce que vous l'avez pris en compte, ça, dans les personnages tels que vous les avez écrits?
Il y avait plein d'éléments intéressants, justement, à les prendre plus âgés. D'abord, on peut faire évoluer la nature de l'amitié qui lie Blake et Mortimer. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été, la relation qui les a unis était toujours la même dans tout ce qu'on a lu. C'était intéressant de voir à un moment qu'il y a une distance qui s'est créée entre eux.
Ils finissent par coucher ensemble, en fait.
Le grand fantasme.
Non, mais c'était intéressant pour donner une nouvelle qualité à leur amitié, qui est une brouille et puis des retrouvailles.
Ouais.
Ça donnait une nouvelle valeur à leur amitié. Et puis de changer aussi la vision qu'ils ont sur le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, leur job dans les années 50, dans ces années de guerre froide, c'était sauver le monde contre l'espèce d'étranger absolu qu'était Ulrich. Maintenant, changer le monde aujourd'hui, c'est pas changer le monde comme il y a 50 ans. Voilà. Le mal s'incarne autrement qu'en une espèce de vision étrange de l'étranger.
Alors, vous êtes quatre hommes autour de la table, quatre hommes à avoir repris l'univers d'Edgar P. Jacobs. L'univers de Blake et Mortimer est très masculin. Vous l'avez féminisé avec notamment l'invention de ce personnage de Lisa. Écoutez ce que disait au sujet des femmes Edgar P. Jacobs au micro de François Rivière. On était en 1975.
Hey. On constate donc qu'il y a également un personnage, si je puis dire, qui n'existe jamais. C'est le personnage féminin.
Ah! Je n'irai pas jusqu'à partager l'opinion de Landru qui disait « la femme au foyer », mais dans une histoire de science-fiction, je crois que l'élément féminin devient vite encombrant, souvent superflu, et qu'il oblige le narrateur à des mièvreries qui ne peuvent que nuire au déroulement de l'action. Ceci dit, si un jour le sujet s'y prête, et si j'ai à ma disposition un modèle graphologique, graphogénique plutôt. Rien ne me dit que je ne ferai pas une histoire avec une bonne femme.
On avec était bonne... on était complètement bourré ou
non, quoi non, on oui, oui, je suis un petit peu surpris. Mais je crois en
la
plus
la femme au foyer, c'est de Landru.
Oui, alors il a voulu femme. Faire un mot d'humour oui. à la belge. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Je pense que Jacobs aurait voulu mettre des femmes. On le voit dans le rayon U. Il y a des femmes, elles sont très belles d'ailleurs. Les contraintes de l'époque faisaient que la femme était vraiment écartée, ou alors c'était des préadolescentes. C'était pas du tout accepté. tard pour le journal Tintin, il y avait un journal pour jeunes filles qui s'appelait Line. Donc on avait bien scindé les deux. Les contraintes étaient claires. Et en plus, Jacobs, je sais, aimait beaucoup chapeau melon et bottes de cuir. Donc je pense qu'il n'aurait pas du tout été contre. Mais voilà, le modèle qu'il avait créé, effectivement, rejette un peu l'idée même d'une présence féminine. On a d'ailleurs, pour nous, c'était très important ce personnage de Lisa. Je suis content que vous le souligniez parce que on était fiers de ce personnage, parce que il apportait brusquement de l'air, une fraîcheur.
Au point que Blake est moins présent. C'est presque Blake qui cède sa place à ce personnage. Jaco Vandormal.
Oui, peut-être que deux mecs et une femme, c'est un sujet qu'on avait envie d'éviter. Mais le personnage de la femme ici, c'est un personnage qui est, comme dit Jacob, c'est un personnage qui est dans l'action. C'est-à-dire, elle est active, c'est une femme forte, c'est une femme qui vient de l'étranger, donc qui a fui l'Égypte pour venir en Europe, et c'est celle qui sauve Mortimer, qui fait en sorte qu'il réussit à faire ce qu'il fait. Donc, elle est vraiment dans l'action.
Nouvelle aventure, nouveau dessin. Les puristes vont gueuler, non? Laurent Derieux.
Oh, ils gueulent déjà? Ouais, ils y sont déjà, là, hein, les puristes. Mais bon. C'est la seule manière de penser un travail d'auteur, je crois. C'est de
faire une ligne moins claire, un trait plus anglais. Ça veut dire quoi?
Ah, le trait anglais, c'est des hachures qui épousent les volumes. Voilà, c'est la spécialité de François. C'est ce que je fais aussi un petit peu dans mes affiches. Mais lui, c'est le maître incontesté. Donc, de la hachure. Avec Gustave Doré.
J'ai le roi de la hachure.
C'est le roi de la hachure. Demain dans le Figaro, le roi de la hachure. Quitte la BD, le roi de la rare.
Exactement.
Le roi de la rayure.
Vous êtes arrivé à quel moment, Laurent Durieux? Parce que tout à l'heure, ils n'arrêtent pas de dire on a commencé tous les trois et ils ont l'impression, j'ai l'impression qu'ils vous mettent de côté.
Non,
mais je
non,
sais.
Non,
moi, j'adore monter les gens les uns contre les autres. Hein. Sinon, je ne travaillerais pas avec Mathieu Bonalagan.
Oui, oui, ça.
Non, mais qu'on le sait. Je pense que très tôt, François avait une idée derrière la tête, c'est de travailler avec moi. Je pense qu'il n'avait même pas encore commencé le. Non, il n'avait pas du tout commencé.
C'était un rêve, en fait.
Oh, c'est magnifique.
Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, c'est un dessinateur frustré de bande dessinée, Laurent. Parce qu'il a toujours voulu en faire, et puis il s'est dit, bon, c'est un métier difficile, comme je viens de vous le dire. Je vais peut-être pas pouvoir totalement faire la carrière que j'espère. Et il avait ça en lui. Donc c'était comme réveiller une belle au bois dormant.
Je sais que pour construire ce dernier pharaon, il a fallu 4 ans de travail, de nombreuses recherches sur le terrain. Vous êtes notamment rendu sur le plateau de Gizeh, François Cuyten.
Oui.
Pourquoi faire? Vous n'avez pas d'imagination?
D'abord, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, en cela, nous sommes un peu fidèles à Jacobs, qui était très méticuleux, très obsédé des moindres détails. Quand il fait SOS Météor, il vient faire des repérages à Paris, autour de Versailles. Et c'est ça qui donne cette crédibilité. Et dès lors, le fantastique qui vient là-dedans prend de la valeur. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe plutôt de Scan Pyramide, l'équipe de Medita Yubi, et donc c'était formidable d'être sur le plateau de Gizeh avec ces scientifiques qui ont découvert quand même une immense salle, ce qui est quand même aussi une formidable façon de retrouver Jacobs et le mystère de la Grande Pyramide. Et puis c'était une occasion de dialoguer avec ces scientifiques, de comprendre un petit peu ce qu'est cette pyramide.
Qu'est-ce que vous avez compris alors?
Pas grand-chose, mais j'ai approché. On comprendra jamais tout à fait cette extraordinaire mécanique qu'est la pyramide de Khéops, comment elle a été construite. Ça reste encore tout à fait mystérieux. Mais on va avancer. Et on aura bientôt, je crois, des découvertes qui vont nous confirmer dans certaines hypothèses sur la construction.
Mais au niveau du dessin, au niveau de l'architecture, ça vous a permis quoi ce voyage pour cet album?
D'être assis sur les pierres, de monter un petit peu. On ne peut pas aller très haut parce que, bon, on nous a quand même laissé une liberté, mais pas non plus totale. Mais on a pu quand même vraiment entrer dans l'intimité et d'être seul sur le plateau de Gizeh avec toute l'équipe et de commencer à voir la lumière se transformer. C'est des sensations qui, en fait, nourrissent le dessinateur d'une façon très... Presque, on n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais vous dessinez différemment. Si j'avais pas été là, je crois pas qu'on aurait eu les mêmes idées. Chaque fois que je revenais d'Égypte, j'étais tout heureux de partager avec Jaco et Thomas et Laurent, les aquarelles, les dessins, tout ce qui tournait autour de ce lieu. Et ça infuse tout ça.
Blake et Mortimer a fait rêver beaucoup de cinéastes. Beaucoup de cinéastes ont eu des projets, ça ne s'est jamais fait. Il y a quelque chose de cinématographique dans Blake et Mortimer, et pour autant, personne n'y arrive. Jaco Vandormal, comment vous expliquez que personne n'y arrive en tant que cinéaste? Vous-même, vous seriez tenté ou pas?
C'est des façons de raconter des histoires très très différentes. C'est effectivement, Blake et Mortimer, c'est spectaculaire. Mais les scénarios sont pas
ouf.
Ils sont pas développés pour être. C'est pas parce qu'on les voit et qu'on a l'impression d'entendre des voix et d'entendre des sons et qu'on se refait un film en lisant une BD que c'est facile à transposer. Je me suis déjà cassé les dents quelquefois sur des essais de transposition. C'est des autres formes de narration. Et quelque part nos incompétences à tous les trois, nos incompétences complémentaires du fait que on n'avait jamais écrit de scénario. Nous, on est arrivé avec quelque chose de plus linéaire quelque part, alors que la tradition du scénario de BD, c'est un peu d'avoir des sous-histoires qui se terminent assez vite, vu que traditionnellement le lecteur devait chaque fois attendre une semaine avant d'avoir la suite. Et nous, on a fait un scénario qui est straight, qui va direct.
Mais c'est ça la force des non-spécialistes, c'est vraiment d'inventer quelque chose que les autres ne se permettent pas. Oui, Laurent.
Oui, je suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas du tout un univers cinématographique pour moi. C'est un univers théâtral. C'est vraiment, et je dirais même un univers opératique. Je crois que s'il y a quelque chose à faire avec Blake et Mortimer, c'est un opéra.
Oui, d'ailleurs, lui-même était baryton. C'est peut-être pour cette raison.
Ça, c'est une bonne idée.
Oui, tu vois, ça arrive.
Ouais. Oui, parce qu'il était... Au bout de 4 ans.
Est-ce qu'il serait ténor, tu penses?
Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois très bien toute la magie qu'on peut reconstruire, venant de chez Jacobs, qu'on peut reconstruire sur une scène.
Et ça a été à la radio, du coup, la radio, les fictions radiophoniques sont beaucoup plus théâtrales.
Absolument. D'ailleurs, il était très fier de ça. Peut-être pas des derniers films qui ont été réalisés en dessin animé, mais alors des disques qui étaient d'ailleurs réalisés ici. Il a été très fier.
C'était le plateau Blake et Mortimer avec les quatre auteurs du dernier album, le dernier Pharaon, François Skuyten, Jaco van der Mal, Thomas Gunzig et Laurent Durieux. Avant de retrouver Astérix pour fêter ses 60 ans, on accueille une héroïne, une Summer Girl, chantée par les trois sœurs d'Aïm.
Smiles turn into crying, it's the same release. And you always know, and you always know. I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl.
Drills that we ran under the freeway overpass. The tears behind your dark sunglasses. The fears inside your heart's deepest gashes. Walk beside me. We'll be right back.
Summer Girl signé AIM, la programmation Winter Guy de Jean-Baptiste Audibert.
France Inter.
Sénateur, je vous le dis, ceux qui ont échappé aux griffes du lion seront empoisonnés par le venin du serpent.
Le nouveau rendez-vous.
C'est que, oh César, qu'entends-tu exactement par venin du serpent?
Le lion ne s'associe pas avec le cafard.
Laurent Goumard.
Et oui, ce soir on bulle avec un irréductible qui a fêté cette année ses 60 ans. Astérix a encore cartonné à Noël. Le dernier album, La fille de Vercingétorix, est un best-seller. Alors Astérix, on lui avait fait sa fête fin août avec Céleste Surrugue, le directeur général des éditions Albert René, et Didier Passamonique, le couteau suisse de la BD franco-belge. Il est journaliste, rédac-chef et commissaire d'expo. À ce moment-là venait de paraître un album hommage, Génération Astérix, qui réunissait pas moins de 60 stars de la BD. On en tenait deux, Charles Berberian et Franck Margerin, le père de Lucien, à qui j'avais demandé de décrire le gâteau d'anniversaire qu'il avait dessiné.
C'est un manque total de preuve d'imagination. D'imagination parce que...
On peut vous faire confiance.
Non, mais franchement, je me suis déçu moi-même.
On dirait du plantu. C'est une blague.
Pendant quelques secondes, je me suis dit « Oh, le gâteau d'anniversaire, c'est une super idée. » Puis après, je me suis dit « C'est vraiment très con. » Voilà, c'est fait. Bon, je l'aime bien quand même, mais voilà. Ouais. Disons qu'ils sont, ils sortent d'un gâteau, mais comme Obélix est un peu gros, il reste coincé dans le premier étage du gâteau. C'est marrant.
Mais ouais, en fait, c'est plutôt réussi.
C'est un hommage indirect à Lucky Luke aussi. Hein.
Mais de quoi
gâteau,
je me mêle?
Ah bah avec les filles à l'intérieur. Non mais c'est vrai. Ouais. Ça c'est un coup de Passamonique.
Si c'était pour dire ça, fallait pas l'inviter.
Hein. C'est lié à quelque chose de particulier, ce gâteau d'anniversaire?
Bah, j'ai toujours vu dans les films, effectivement, Lucky Luke, maintenant qu'il me le dit, mais alors j'y avais pas pensé une seconde avant. Il y avait souvent un type qui sortait d'un gâteau, alors soit une fille à poil, soit un mec avec une mitraillette, mais il y avait souvent quelqu'un dans un gâteau. Et voilà,
À vos anniversaires, non, aussi? Les albums d'Astérix, vous les aviez à votre...
Alors exactement, mais comme j'étais tout petit quand Astérix est sorti, on m'avait abonné à Pilote, et c'était toutes les semaines à l'époque, tous les jeudis, je recevais mon Pilote avec les aventures d'Astérix.
Tous les jeudis, c'était votre anniversaire en quelque sorte?
Non, c'était ma fête.
Charles Berberian, vous nous décrivez un petit peu ce que vous avez commis pour cet anniversaire?
Vous voulez vraiment que je décrive un dessin?
Mais ça a l'air de poser problème à tout le monde.
L'idée, c'était d'amener Astérix et Obélix à notre époque. Parce que c'est d'abord le défi des auteurs à qui on demande, par exemple, de continuer les aventures d'Astérix et Obélix aujourd'hui.
Oui.
Et donc, moi, j'ai fait littéralement, j'ai franchi le pas. C'est-à-dire que j'ai dessiné Astérix et Obélix débarquant dans notre monde grâce à une nouvelle potion magique.
Vous aussi, il y a une histoire intime avec Astérix, à part les anniversaires de Franck Margerin. Pour vous, Charles Berberian?
Non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que quand il y avait une occasion, que ce soit Noël ou un anniversaire, je recevais un album d'Astérix. Quand c'était pas quelque chose que j'avais demandé, parce que c'était pas forcément mon personnage préféré à l'époque. Je préférais Tanguy et la Verdure. Mais surtout parce que j'aimais beaucoup le dessinateur Jigé. Mais une chose... qui m'a marqué à l'époque où j'ai découvert la bande dessinée franco-belge, parce que pendant les 10 premières années de ma vie, je lisais les super-héros, surtout américains. J'ai découvert les auteurs, en fait. Ce qui n'existait pas dans la production américaine, parce qu'à l'époque, c'était pas signé. Il n'y avait pas le nom des artistes. Il y avait juste le personnage. Et avec Astérix, et évidemment le journal Pilote, là où Astérix était publié, j'ai découvert cette notion d'auteur de bande dessinée et l'importance d'un nom comme Goscinny. Et comment, en tirant sur le fil d'un nom, on découvre d'autres univers développés par ces auteurs. Bon, Tanguy et la Verdure pour Uderzo, qui l'a dessiné, je savais pas. Moi, j'avais commencé à lire avec Jigé, Tanguy et la Verdure. Mais surtout Lucky Luke, qui est devenu mon personnage préféré à cette époque-là, autour de l'âge de 10 ans, ouais.
Céleste Surrugue, vous avez donc en tant qu'éditeur orchestré tout cet album, 60 auteurs, les auteurs ont répondu assez facilement, vous avez eu des refus par exemple?
On n'a pas eu de refus, on a eu des auteurs qui étaient débordés, mais vraiment très à la marge. De façon très surprenante, on a eu des retours positifs et très rapidement.
Et de partout dans le monde?
Et de partout dans le monde et de toutes les générations, on a effectivement des auteurs espagnols, allemands, italiens, coréens, américains, anglais,
et puis français, québécois, belge, bien sûr. Ça a été vraiment très sympathique d'avoir ce retour de positivité. Ah non, il y en a.
Il y en a quelques-unes.
Elles sont pas nombreuses par rapport, beaucoup plus d'hommes quand même. C'est encore le cas dans la profession, même si elle s'est pas mal féminisée depuis 1991, d'après Charles Berberian. Ouais.
Grosso modo.
Et effectivement, on a eu plus de retours, tant et si bien d'ailleurs qu'on n'a pas tout publié dans cet album. Il y a une partie qui a été publiée dans le magazine Astérix Max. Donc oui, non, un très beau retour des grands de la bande dessinée.
Il y a un business plan Astérix Céleste sur Hugues.
Non, je pense qu'on peut pas parler quand on célèbre un anniversaire de business plan. On est dans notre rôle de promouvoir le patrimoine, les racines de ce personnage, et c'est ce qu'on fait dans ces années-là.
Vous disiez pas ça, Monique, vous disiez si quand même.
Oui, on peut appeler ça aussi une confortation de la marque. Hein. Je veux dire,
il y a aucune honte à parler de marque.
C'est pas fait dans cet esprit-là. Par contre,
ça n'a jamais été le cas du Derzo, effectivement, et Goscinny, mais on peut comprendre que les éditeurs soient un petit peu plus calculateurs, hein, non?
C'est une question pour vous. Hein,
oui. Je ne me vois pas en calculateur sur ces sujets-là. Je me vois plutôt à être assez exigeant et être sûr qu'on a des expositions qui sont à la hauteur du personnage, comme celle de la BNF, qu'on ait à remettre en avant ce qui fait d'Astérix aujourd'hui un personnage un peu intemporel.
Alors pourquoi continuer la publication des albums? On pourrait très bien jouer sur le patrimoine. Pourquoi on maintient cette marque alors qu'on pourrait jouer sur le patrimoine, Céleste sur Hugues?
Alors je crois que ce personnage est encore très très fort dans toutes les générations, qui a une attente d'une bonne partie des lecteurs pour de nouvelles histoires. Et que si on a des talents pour raconter ces histoires, pourquoi s'en priver?
En termes de vente, on est à combien à peu près? Un album d'Astérix qui marche bien?
Un album d'Astérix qui marche bien, les derniers albums se sont vendus en version française à plus de 2 millions d'exemplaires.
Qu'est-ce qu'en pense Charles Berberian, Franck Margerin?
Oui, c'est bien.
Ouais,
c'est
bien.
C'est mieux que moi.
Ça fait rêver, Franck.
Moi, je peux pas m'empêcher de penser à un truc, parce que j'aime vraiment beaucoup le travail de Ferry et de Conrad.
Ouais, qui ont repris hein, depuis 4 ans.
J'ai dit Conrad, c'est pour le dessin, ouais. Et Jean-Yves Ferry, c'est pour le scénario.
Je suis très impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire, mais j'aime leur travail en dehors aussi d'Astérix et Obélix. Et en ce moment, il y a beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui reprennent comme et parfois c'est vraiment très réussi, comme ce que vient de faire Skuyten avec Blake et Mortimer. Mais si Goscinny et Uderzo avaient épuisé leur énergie à retravailler sur des classiques au lieu de créer ce qui allait devenir des classiques, hein, notre bibliothèque n'aurait pas été aussi riche aujourd'hui. Je trouve ça bizarre que des auteurs aussi talentueux passent autant d'énergie sur un univers qui leur appartient pas.
Par exemple, on vous a proposé, vous, de poursuivre un personnage qui ne vous appartient pas?
Je suis incapable. Moi, j'ai absolument aucune aptitude pour écrire un scénario ou dessiner. Je suis très, très limité, moi, en fait. Je fais ce que je peux. Et donc, j'arrive pas à me fondre dans l'univers de quelqu'un d'autre. Donc les gens ne pensent pas à moi, et s'ils me le proposaient, je pense que je... Vous voyez bien comment j'ai dessiné Astérix et Obélix. C'est pas recevable pour un truc.
Ah bah oui, mais non. Si vous le dessinez comme ça, je pense qu'ils vont le refuser. Oui.
Alors, Franck Margerin, vous? Non, je crois que moi non plus, je me sens pas scénariste. Je me raconte à travers mes BD, et je pourrais pas raconter d'autres personnes que moi. C'est pour ça que à ma mort, il y aura pas de gens qui reprendront Lucien, parce que ça voudrait rien dire.
Ah mais qu'est-ce que vous en savez? C'est-à-dire que vous...
Ah mais il n'en est pas question.
Ah voilà, vous allez le mentionner. C'est vrai. Vous allez le mentionner comme...
Non, je vais pas le mentionner. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Quand on est mort, on est mort. Mais franchement, je vois pas l'intérêt.
D'ailleurs, Ferry et Conrad, c'est un choix du Derzo. C'est lui qui les a choisis. Et il dit même dans les interviews qu'il ne voit pas durer quand même éternellement. Tant qu'il est encore là, il supervise, il surveille. Il a un droit de veto d'ailleurs sur les propositions de Ferry et Conrad.
Il a un regard, mais un regard plutôt bienveillant, parce que je crois qu'il est en confiance avec ce duo d'artistes. Ça se passe dans une ambiance, je dirais, très bon enfant. Voilà.
Mais là, on ne fait pas l'Astérix qu'on veut, on doit faire du copier-coller. Et c'est ça qui est très difficile, c'est que si le dessin n'est pas exactement à la hauteur du travail du Derzo, ça ne peut pas se faire.
Céleste Suruc, oui. Ben oui.
Oui, je crois que pour faire un bon Astérix, effectivement...
Il faut respecter le dessin, déjà.
Les lecteurs ont tous dans leur esprit ce qu'est un bon Astérix. Il faut des pirates, il faut un banquet, il faut des baffes, etc. Mais ils ont aussi, graphiquement...
non, mais graphiquement, le dessin.
Mais graphiquement, ils ont aussi, dans leur esprit, chacun, ce qu'est un bon dessin d'Astérix. La vraie difficulté, c'est que quand on prend Astérix, et qu'on regarde la carrière d'Albert sur Astérix, entre les premières Astérix, le devin, et puis plus tard, le fils d'Astérix, on a du Uderzo qui bouge aussi beaucoup. Et donc la difficulté pour Didier Conrad, c'est pas exactement d'être dans une copie servile de quoi, de toute manière, c'est trouver son style dans du Uderzo. Mmh.
Mais quand même, on est moins déconnecté. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait deux Lucky Luke. Je me souviens avoir eu des Lucky Luke plus sur le tard, et puis un jour, on m'a offert un Lucky Luke des premiers temps, et je voyais avec un gros nez, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce type, quoi? C'était vraiment...
C'était pas peigné tout à fait pareil.
C'était pas du tout la même chose, c'était très particulier, alors qu'Astérix, ouais, même s'il a évolué, graphiquement, il y a quand même une continuité.
Il y a des Tintins en jean à la fin de Tintin aussi, donc je pense que c'est la vie de la bande dessinée. Et puis, en même temps, pourquoi il faut absolument que Astérix soit préservé? C'est parce que c'est arrivé à un tel niveau de notoriété qu'il y a une espèce de sacralité autour du personnage d'Astérix, et que c'est vrai que...
Oui, mais les statues, ça se déboulonne, hein, monsieur.
Non, mais on est tout à fait d'accord. Et je pense que Albert René achète, en l'occurrence, ils ont qu'une panique, c'est que les millions d'albums vendus finissent par ne plus se vendre parce qu'on aura trop touché à l'univers. Alors, Céleste, un Astérix par, comme on le fait pour Spirou ou Lucky Luke, c'est possible?
Aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui non, parce que je pense que au-delà de ce que veut un éditeur, il y a aussi ce que veulent les lecteurs. Et les lecteurs aujourd'hui sur Astérix ont des idées assez précises de ce qu'ils souhaitent. On a commis l'erreur d'enlever la carte la dernière fois dans la Transitalique parce qu'on avait besoin d'une page de plus. Et on a eu beaucoup de courriers.
Ah oui, mais ça faisait partie de l'ADN de l'album.
Donc, mais dans l'ADN d'Astérix, il y a aussi l'humour à plusieurs niveaux. Oui. Il y a la référence, il y a le jeu de mots, mais il y a aussi un graphisme qui a évolué, mais qui est particulier et que les lecteurs attendent.
Dans votre relation à ces albums, est-ce qu'il y en a un particulier qui vous a marqué quand vous étiez enfant ou adolescent, ou plus tard comme dessinateur même, Charles Berberian?
Le bouclier Arverne.
Ouais, c'est toujours difficile à dire. Ouais. Hein, parce que jamais où est le R.
J'aime beaucoup la couverture et ce qu'il y a à l'intérieur, mais la couverture d'Astérix en Corse m'avait beaucoup plu parce que ce noir et blanc tout autour et puis juste le personnage en couleur. C'est vrai que la grande marque de ce type de bande dessinée, c'est que c'est devenu très très populaire, mais qu'il y avait un point de vue d'auteur qui est pas négligeable. On parle souvent du génie de ou machin. Ce terme de génie me gêne énormément. C'est comme s'il n'y avait pas de travail derrière, alors que Goscinny travaillait beaucoup. Et c'était quelqu'un qui mettait dans ses bandes dessinées, je crois, son propre vécu. Et la grande force des scénarios, pour moi, hein, de Goscinny, c'est cette aptitude qu'il a à rendre les gens méchants, détestables, il les rend bêtes.
Comme
et donc drôle, ouais. Et donc on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie à leur égard, et je trouve ça formidable.
Et vous, Franck Margerin, voilà. Est-ce qu'il y a un album qui vous a plus marqué, même au niveau de la couverture?
Ah, c'est difficile à dire. Je me souviens du Tour de Gaulle, parce que bon, vous avez le Tour de la France comme ça, et puis je sais pas, il y en avait certains aussi, je reconnaissais Pierre Tchernia, des petits,
ouais,
petits,
moi aussi,
plein,
ouais,
de petits private jokes comme ça, et j'adorais ça, et c'est vrai que
Annie Cordy.
C'était un des premiers où il y avait presque une double lecture.
Guy Lux dans Le Domaine des Dieux.
Voilà, j'adorais. Quelle mémoire. Hein. Ah, voilà, oui. Donc, mais c'est difficile d'en sortir un du lot, franchement, j'ai du mal.
Alors là, je voudrais juste vous faire écouter, à nos auditeurs aussi, bien entendu, un son très particulier. On est en mai 75, Uderzo et Goscinny face à Taisez-vous, El Kabash.
Dessiner Obélix, Astérix, ça prend combien de temps, un album?
Pour le dessin, il faut déjà compter 5 mois. Uniquement pour le dessin. Alors évidemment, il y a le scénario qui se fait avant le dessin, qui prend déjà, suivant l'inspiration de Goscinny, 1 mois, 2 mois ou 3 mois.
Et vous faites ça ensemble, en étroite liaison, bien sûr?
Ah, bien sûr.
Évidemment. Heureusement. Et comment un couple d'humoristes comme vous arrive à s'entendre après, je crois, 16 ans d'existence commune?
Oh non,
plus. Il y a 23 ans.
23 ans, oui, bientôt, oui. Nos noces d'argent.
Oui, absolument.
Oh, vous savez, sans aucun problème.
vraiment pas, on s'amuse des mêmes choses. Le jour où nous nous sommes connus, nous avons décidé de travailler ensemble. Et nous n'avons pas changé d'avis depuis, pas du tout, non.
Il faut dire que j'ai très bon caractère, Gossini, un mauvais caractère.
Alors, on arrive à bien se marier. Indulgent, il faut dire. C'est une grande indulgence, il a un peu tendance, bien sûr, à tirer la couverture à lui, mais il est encore jeune.
Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui Astérix et Obélix?
Ah, ce qui les préoccupe, bah, vous savez, de pouvoir continuer à s'amuser entre eux, à amuser leur public, à manger des sangliers, de la potion magique, à trouver des bons romains bien fermes. Vous savez, ce sont des choses extrêmement simples.
Des choses extrêmement simples, Didier Passamonique. On était en mai 75, là.
Ah oui, d'abord, on reconnaît l'esprit de Goscinny et du Uderzo. Et il y a une complicité absolument incroyable entre ces deux auteurs. Et toute l'intelligence du scénario se retrouve aussi dans le dessin. On parlait tout à l'heure du bouclier Arverne. Il faut voir la scène où le préfet reçoit des baffes. Il reçoit des baffes à plusieurs reprises. Alors au début, il y a des noirs qui portent le baldaquin, je sais pas comment ça s'appelle là.
Et donc, chaises à porteurs.
Voilà, ils sont de chaises à porteurs. Et donc dans la première scène, ils sont surpris. Et à fur et à mesure que le préfet reçoit des baffes, on voit leur sourire s'élargir jusqu'à devenir un énorme rire. Et donc, il y a une intelligence dans le dessin qui vient complémenter le scénario et qui est absolument extraordinaire, qui est unique. Hein. C'est très très rare, ce type de complicité aussi intrinsèque.
Franck Margerin.
Et moi, j'ai eu la chance d'aller chez Uderzo et de voir ses originaux. Des mains d'Uderzo me les montrer, j'ai pas touché, parce que, respect, mais très, très impressionnant.
Qu'est-ce qu'on apprend de son trait quand on regarde justement ses originaux?
Bah, une rigueur incroyable, parce que ça ne tremble pas d'un poil, c'est quasiment jamais retouché, je ne sais pas comment il fait.
Albert Uderzo a un dessin absolument incroyable, et effectivement, quand on regarde ses planches, il n'y a pas une trace de type X. Il n'y a pas un trait de crayon en trop. Et ce qui est aussi
avec un mélange de plusieurs registres.
Absolument. Et ce qui est très impressionnant dans le travail d'Albert Uderzo, c'est qu'il a réussi l'amalgame du gros nez franco-belge, du réalisme et puis de la caricature. Et tout ça dans une case, dans un dessin, on peut avoir des décors, des chaînes qui sont ultra réalistes et nos personnages avec leur gros nez qui se baladent là-dedans et ça marche.
Et Falbala pour la dimension beauté érotique.
Ouais, magnifique.
Didier Passamonique, vous aviez écrit un article il y a quelques temps où vous expliquiez que on ne manquait jamais de rappeler qu'Astérix était un héros typiquement français mais issu de l'immigration. En quoi précisément ?
Mais je pense que ce qui fait le succès international d'Astérix, c'est ça. Comment expliquer qu'une histoire de Gaulois soit publiée en chinois ou en japonais?
Oui, puisqu'il y a même des Coréens qui rendent hommage dans l'album qui vient de sortir.
Il y a Kim Jong-ji qui rend hommage. En fait, c'est parce que, effectivement, il y a une vision du français, mais qui est une vision distanciée. Pourquoi? Parce que Goscinny est né à Paris, certes, mais de l'âge de 2 ans à l'âge de 19 ans, il a vécu en Argentine. Et après, quand il quitte l'Argentine, c'est pas pour revenir en France, c'est pour aller habiter à New York pendant 6 ans. Et c'est quand il a 26 ans qu'il revient en France et que il redécouvre la France qui, pour lui, était le pays des vacances. Et par ailleurs, Goscinny, comme Uderzo, sont des enfants d'immigrés. Les parents de Goscinny sont polonais et russes, ou ukrainiens, et Uderzo est un enfant d'immigrés italiens. Et du reste, Uderzo en parle dans sa jeunesse, il fréquente ses amis juifs qui sont à la Bastille, et c'est ce milieu d'immigration qui donne une vision la plus française qui soit. Quoi.
C'est d'ailleurs un sous-texte dans l'œuvre d'Uderzo et Goscinny. Goscinny écrit dans la description de la case 1 que les soldats romains doivent être dessinés, je le cite, « sans les jambes, un peu comme dans les documentaires montrant les Allemands entrant en France ». Vous connaissiez cette...
Oui, bien sûr. Ouais. Elle est connue, cette... Mais en même temps... Il y a une dame à New York, il faisait une signature à New York, qui lui dit « Alors, Astérix et Lego, c'est les Allemands que vous décrivez. » Et là-dessus, Goscinny a répondu « Madame, on ne peut pas faire de l'humour avec les camps de concentration. » Donc, il faut toujours faire attention. Il n'y a pas cette intention-là dans Astérix. Astérix, ce n'est pas un cours d'histoire. Astérix, c'est une parodie de l'histoire. Et effectivement, la parodie joue sur des choses qui sont connues par les lecteurs et qu'ils recomposent de façon humoristique.
Enfin, l'aspect parodique, ça me gêne. Moi, encore une fois, j'y vois quelqu'un qui aime la France parce que c'est un pays qui l'a accueilli, mais c'est un pays qui a fait du mal aussi. Et donc on peut supposer une certaine méfiance extrêmement grande à l'égard d'un pays qui vous a envoyé la police pour vous mener dans ces fameux camps de concentration. Donc transformer cette méfiance en autre chose que de la haine, grâce à l'humour, je trouve ça déjà fort. Et par ailleurs, de pouvoir rire des gens qui vous effraient en les transformant en personnages un peu crétins, je trouve ça encore plus fort, quoi. Donc, pour moi, c'est pas de la parodie. Après, c'est tout. C'est-à-dire que là où cette bande dessinée est quand même assez incroyable et qu'elle peut être lue par les enfants comme par les adultes, c'est qu'il y a tellement de niveau de lecture, hein, qu'on peut y voir de la parodie, on peut y voir de l'autobiographie peut-être aussi, on peut y voir une déclaration d'amour pour un pays, ce qui est extrêmement rare, hein, c'est-à-dire que surtout ici en France, on a plutôt tendance à critiquer, à dénigrer. Et voilà, donc pour moi, Goscinny et Uderzo, ça fait partie du patrimoine, et en plus, la générosité de l'un et de l'autre, c'est d'avoir créé cette revue pilote, parce qu'ils l'ont réellement créée, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, au départ, c'était une revue destinée à parler que de bagnole, ils allaient mettre la clé sous la porte, et Goscinny a dit « laissez-nous un an, mais donnez-moi carte blanche ». Et ça a donné lieu à toute une génération d'auteurs, Brotéché, Moebius, Druyer, Fred, qui ont nourri à la fois les lecteurs de l'époque, les futurs auteurs, et qui ont nourri aussi leurs éditeurs, les libraires, enfin non, mais c'est...
Pas de fluide glacial et de métal hurlant sans pilote.
Voilà.
C'était vraiment une émission franco-belge. Astérix, je rappelle, c'est le double cadeau de Noël, Génération Astérix, et La fille de Vercingétorix sont parus aux éditions Albert René. Tout de suite, on part en live. Marion Guilbault a peut-être invité un barde.
Nouveau rendez-vous sur France Inter.
Marion Guilbault, vous qui avez reçu de si beaux cadeaux pour Noël, quel est le cadeau que vous nous faites ce soir?
Moi, j'avais très envie de réécouter le live de Batlick. Batlick qui écrit, qui compose, qui enregistre, qui produit, qui édite de la musique, seul comme ça, dans son coin, depuis une quinzaine d'années. C'est vraiment un anti-héros, hein. Il est capable de faire jaillir de la mélodie, de la lumière chez le plus noir des nihilistes. La preuve, sur son nouvel album, L'Art de la Défaite, il a fait sienne la pensée de Cioran avec cet adage « Rater sa vie, c'est accéder à la poésie sans le support du talent ».
J'adore.
Ouais, parfait ce truc. Batlick connaît ses classiques, il maîtrise l'art de la chanson marginale, discrète mais éveillée.
Faux, ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. Fou, ça n'est pas caché. Fou, ça n'est pas caché. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde, malgré les apparences, vive le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vive le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça déteint, ça se voit comme un bleu de Chine, t'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien, c'est très net, ça déteint, ça se voit comme un bleu de Chine, regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vive le bleu sous le beige, malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. Malgré les apparences, vive le bleu sous le beige, malgré les avalanches, vive les formes sous la neige. C'est là,
y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière, autant on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière, autant on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi. Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché. Ça n'est pas caché.
Est-ce que c'est toi?
Ça n'est pas caché. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous le beige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches, ça n'est pas caché. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches, ça n'est pas caché. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches, ça n'est pas caché. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches.
Avalanche, Batlick, cet extrait de son nouvel album L'Art de la Défaite, un disque qui est sorti sur son propre label à Brûle Pourpoint.
C'était l'ENRV première partie, on va se retrouver dans 15 minutes pour l'ENRV la suite plus de France Inter. On se retrouve lundi, oui lundi, avec ça.
Et elle c'est qui? Nos forces spéciales.
Notre révolution ne connaît aucune frontière.
Un extrait de Sœurs d'Armes, le film de Caroline Forest. On fera un retour sur ce qui a bouleversé l'actualité internationale en octobre dernier. L'offensive turque en Syrie, le sort des Kurdes et des Yézidis. Le NRV, c'est Marion Lelay et Juliette Medevielle à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rosic, Clémence Diligent, Benoît Lagan.
Rendez-vous.